Bonjour à tous. Avant de commencer ma communication, je vais simplement introduire les textes que les comédiens vont vous jouer et qui sont des textes que j'ai choisis qui introduisent donc le propos que je vais tenir tout à l'heure. Donc je vais vous parler de déplacement d'enfants pendant la guerre d'Espagne. Cette guerre est déclenchée le 18 juillet 1936 par un coup d'État militaire qui conduit rapidement à la division du pays en deux zones. La zone républicaine, qui reste gouvernée par la coalition de Front Populaire qui avait remporté les élections, et la zone rebelle ou franquiste, qui est gouvernée par les militaires putschistes. Cette guerre dure presque trois ans, jusqu'en 1939, et pendant cette guerre, environ 10 000 enfants quittent la zone républicaine de l'Espagne pour être temporairement accueillis en France, où ils vivent soit dans des familles volontaires, soit dans des maisons d'enfants. Les trois documents que vous allez voir jouer par les comédiens, que je remercie, offrent trois regards sur ce programme d'évacuation d'enfants et sur les modalités de sélection des enfants qui seront ou non admis à participer à ces évacuations. Le premier texte est un document de travail élaboré par le ministère espagnol de l'assistance sociale en décembre 1936. C'est un texte qui est écrit au moment où le ministère réfléchit à la manière dont la politique d'évacuation devra être menée.
Norme générale.
On souhaite envoyer le plus grand nombre possible d'enfants en donnant la préférence aux orphelins et aux enfants accueillis dans les institutions dépendantes de l'assistance sociale. Les pays qui ont pour l'instant offert d'accueillir des enfants espagnols sont la Belgique et la France. En France a été constitué un comité d'accueil aux enfants espagnols dont la mission est
de recevoir les expéditions depuis la frontière, la distribution des enfants, l'inspection sociale et sanitaire, et de payer tous les coûts à partir de la frontière.
Organisation. Les enfants partiront par groupe de 100 environ. Chaque groupe sera accompagné d'un médecin, une infirmière, deux instituteurs ou un instituteur et un maître auxiliaire. L'un des responsables de l'expédition devra savoir parler français. Pour chaque expédition, il sera procédé à
l'inspection sanitaire de tous les enfants, leur fourniture en vêtements et des photographies pour les fiches.
Mise en marche. Une fois disponible, le personnel et la documentation, les expéditions passeront à Barcelone et de là à Portbou, où notre délégué, Francisco Alaca, selon les données reçues de notre délégation à Paris, fera la distribution des enfants. Dans le sud de la France, on préparera plusieurs résidences où les convois pourront prendre du repos en attendant leur ordre de marche vers leur destination. L'installation définitive se fera en régime familial parce qu'elle est la forme d'accueil la moins onéreuse et qu'elle permettra d'évacuer le plus grand nombre d'enfants. L'expérience des colonies d'enfants organisées à Valence suite à l'évacuation de Madrid nous démontre qu'il est inopportun de les organiser en France lorsqu'on calcule un coût minimum de 10 francs par jour et par enfant et qu'il est impossible à assumer pour quelque organisme que ce soit si l'on tient en compte qu'il ne faut pas faire la différence parmi les évacués et qu'on aspire à envoyer en France une quantité minimale de 30 000 enfants.
Propagande. On a envoyé des circulaires aux organismes politiques et syndicaux, nationaux, provinciaux et locaux, avec des lettres pour les parents et des bulletins d'autorisation.
On a publié des notes de presse pour préparer l'atmosphère.
Merci. Le second texte que vous allez entendre est tiré des mémoires inédites d'un jeune adolescent madrilène qui s'inscrit dans le tout premier convoi d'évacuation qui quitte la capitale pour la France en janvier 1937.
Un beau jour, à la fin du mois de novembre 1936, j'ai vu une information dans un journal. Elle annonçait l'organisation d'une expédition d'enfants en France. Quand je l'ai lu, l'idée de partir en France m'a enthousiasmée, car à cette époque, ma situation était vraiment calamiteuse. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois et je suis immédiatement allée au bureau où se réalisaient les inscriptions. Ils se trouvaient dans le quartier de Salamanca. Là-bas, ils ont noté mon identité et mon adresse. Ils m'ont expliqué que le jour et le lieu de rendez-vous pour le départ de Madrid seraient publicisés par voie de presse. Et c'est bien comme ça que ça s'est passé. Dans les premiers jours de janvier 1937, ils nous avisèrent. On devait se présenter le 21 janvier, à 9h du matin, pour partir vers notre destination. Je suis arrivée au lieu indiqué, avec mon modeste bagage. Il était composé d'un petit sac en toile, où j'avais mis quelques vêtements, un costume, en plus de celui que je portais sur moi, et un peu de linge. Maintenant, quand j'examine la documentation de l'époque dans les archives générales de l'administration, j'ai trouvé une fiche du comité d'aide aux enfants du Conseil de défense de Madrid. Il y est certifié que j'ai été évacuée à Valence en direction de la France le 21 janvier 1937. En tout, lors de cette première expédition, nous étions quelques centaines d'enfants, des deux sexes et de différents âges. Je ne crois pas que nous étions plus de 300. Les plus petits devaient avoir environ 10 ans. Ils nous ont assis dans des autobus et on est parti pour Valence. À Albacete, on s'est brièvement arrêté et ils nous ont servi un bon repas. De notre départ de Madrid jusqu'à l'arrivée à la destination, un groupe d'instituteurs, membres du syndicat de l'enseignement, s'est occupé de nous. Le soir, on est arrivé à Valence. Et là, ils nous ont installés dans un vieux couvent délabré. On a dîné et ils nous ont assigné nos lits. Quelques miliciens de la CNT, la centrale syndicale anarchiste, se chargèrent de veiller à notre sommeil. C'était des hommes déjà âgés, remplis d'idéaux très bavards et amicaux. Leur attitude solidaire et leur désir de nous rendre le séjour agréable, je ne les oublierai jamais. Afin d'améliorer notre séjour, on nous emmena dans le village de Moncada et on nous logea dans une colonie très bien installée. À notre groupe s'ajoutèrent d'autres enfants originaires de la zone de Malaga. Ils étaient victimes d'un accès de gale et il se fit tout ce qui était possible pour l'éradiquer. Je ne suis restée que quelques jours à Moncada et je suis retournée à Valence où on nous plaça dans un grand chalet près de la gare. Notre régime alimentaire était toujours excellent. Il faut dire que notre groupe continuait à rendre visite aux plantations d'orangers. Les jours passaient et rien n'était dit de notre passage en France. Par conséquent, les enfants s'énervaient et leurs esprits s'exaltaient. La situation d'expectative culmina avec un accès de violence et de rébellion, tout à fait dans la tonalité de l'époque. Nous sommes descendus dans la rue pour manifester en direction du ministère de la Santé, qui était l'organisme dont nous dépendions. Je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée en tête de la manifestation. En arrivant à notre but, nous nous trouvions devant le ministère, criant et protestant à tue-tête. Quelques fonctionnaires descendirent pour essayer de nous apaiser et calmer nos esprits altérés en discutant avec nous. Ils nous proposèrent d'amener une commission du groupe pour parlementer avec la camarade ministre Federica Manzini. Sans aucun doute, ils appliquèrent le traitement correct et professionnel face au problème « Comment affronter une foule ?». Le procédé qu'ils utilisèrent correspondit aux préceptes indiqués par les principes des relations publiques. Nous sommes passés dans l'antichambre de la ministre. Et là, son adjointe, Amparito Ponce, et d'autres hauts fonctionnaires s'occupèrent de nous. Il m'a incombé de porter la parole de la commission, et la discussion s'est maintenue à un très haut niveau de compréhension. Je décidai d'exhiber une attitude de conciliation et de convaincre mes interlocuteurs de l'impérieuse nécessité de répondre rapidement à notre désir de partir en France. Comme le ministère était sincèrement décidé à mener le projet à bien, il ne fut pas nécessaire de les convaincre de quoi que ce soit. Leur objectif et les nôtres coïncidaient. Ils nous proposèrent d'être patients et d'attendre quelques jours, et ils tinrent leur promesse. Une semaine plus tard, ils nous emmenèrent en autobus à Barcelone. Ils nous logèrent dans une grande bâtisse médiévale, en plein quartier gothique. Ils nous logèrent donc dans ce quartier gothique. La capitale catalane traversait une période difficile en termes d'approvisionnement. Ce fut la première fois de ma vie que j'avais terriblement faim. Pour calmer notre appétit vorace, nous eûmes recours à des extrémités peu ordinaires. Manger l'écosse des arbres. Heureusement, le supplice ne dura que quelques jours. Plusieurs autobus vinrent nous chercher et nous emmener à la gare de France. Nous sommes arrivés à Cerbère, en train, où nous attendaient pour nous recevoir quelques fonctionnaires du comité d'accueil et de la CGT.
Le troisième texte et dernier texte que vous allez entendre relate des événements qui sont postérieurs d'un an et demi. Nous sommes en juin 1938 et il n'y a pas eu de convoi d'enfants vers la France depuis 9 mois. Or, le ministère de l'Instruction publique espagnol est débordé par les demandes d'évacuation d'enfants à l'étranger et il prépare un premier convoi. L'un des fonctionnaires du ministère explique ici les difficultés qu'il rencontre lors de la préparation de ce convoi.
En tant que responsable de faire les passeports, mon camarade et moi, nous avions préparé une liste de 60 enfants prêts à partir avec la première expédition. Le secrétaire du Conseil national de l'enfance évacuée, le camarade Enrique Alaïs, m'a convoqué le 15 juin et m'a dit que la première expédition comptait 50 enfants et partirait le samedi 23 en direction de Biarritz. Je lui ai dit que j'avais un passeport collectif complet pour 60 enfants. Il m'a répondu que ne pouvaient partir que 50 enfants, pas un de plus, pas un de moins. D'un commun accord, Alaïs et moi, nous avons cru, pour ne favoriser personne, que nous devions convoquer les 60 enfants et que les 50 premiers à se présenter seraient les premiers à partir. Alors que nous mettions la dernière main aux modifications imposées par ce changement, un fonctionnaire du Conseil national de l'enfance évacuée s'est présenté avec les noms de 2 enfants pour qu'ils soient inclus dans l'expédition de Biarritz, sur ordre de la directrice générale de l'enseignement primaire. Nous avons expliqué aux 10 fonctionnaires que l'expédition était déjà au complet et le passeport sur le point d'être terminé. Les enfants dont il s'agissait, que ce soit par ignorance de la procédure normale ou parce que la directrice avait une idée très spéciale de la manière dont un bureau comme le nôtre fonctionne, ne figuraient sur aucune liste et n'étaient pas passés au département des expéditions d'enfants à l'étranger. L'un des 2 enfants n'avait même pas de dossier. Lorsque le fonctionnaire l'a expliqué à la directrice, elle lui a répondu que, avec ou sans papier, ses enfants devaient partir, comme elle l'avait dit. L'autre enfant recommandé avait, lui, quelques documents pour son dossier. Le lundi 18, le camarade Alaïs est venu me demander le passeport collectif pour les 50 enfants et je lui ai dit que tout était prêt. Il m'a dit qu'il fallait que j'ajoute l'enfant recommandé par la directrice. Aucune allusion à l'autre enfant, peut-être parce qu'il n'avait strictement aucun des papiers nécessaires. J'ai répondu qu'il savait très bien qu'on avait enlevé 10 enfants de la liste et que je n'étais pas disposé à ajouter qui que ce soit qui ne soit pas l'un de ces 10 enfants-là. Ni à exclure qui que ce soit pour faire l'échange. Peu après, le camarade Cortés est venu me dire à peu près la même chose qu'Alaïs. Ils ont à nouveau insisté et à mon tour, j'ai essayé de leur faire comprendre que je ne pouvais enlever aucune des 50 photographies que comptait le dossier sans porter atteinte à ma dignité. Je ne sais pas si ces 2 enfants présentent vraiment un cas de nécessité, mais ce que je peux affirmer, c'est qu'il n'en paraît rien et que personne n'a essayé de le démontrer, alors qu'il s'agit précisément de l'unique argument qui peut nous influencer pour que nous décidions de favoriser certains enfants plutôt que d'autres pour les évacuations. À la fin, le camarade Cortés est revenu et m'a dit de ne pas ajouter cet enfant, mais qu'il devrait être pris en compte pour la prochaine expédition, chose que nous ferons, sinon avec plaisir, du moins en y éprouvant moins de violence. L'enfant qui a motivé cet incident est le fils d'un employé de Montserrat, affilié à l'Union Générale des Travailleurs et au Parti Communiste de Catalogne. Je dis cela pour compléter le rapport et rien d'autre, car même s'il avait appartenu à l'organisation syndicale à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, dans un cas similaire, en de pareilles circonstances, j'agirais toujours comme je l'ai fait, sûr de procéder avec justice et en accord avec ma conscience.
choix pour le PowerPoint. Il va commencer.
Je vais pas voir en bas, il est là.
Ah, d'accord. Ok.
Je les ai renommés comme ça.
Top. T'inquiète, je m'en occupe.
C'est parfait. Non, c'est bon, je vais gérer.
Okay.
C'est juste pour pouvoir avoir l'air idiote.
Ok. Et je parle avec ça.
Je suis censé contrôler tout le temps.
Pardon.
Je suis censé contrôler.
Ah oui, attends.
Minutes, c'est ça.
Je vais mettre mon chronomètre.
C'est une minute, c'est ça.
Ouais. Mais ça a pris plus de temps que je pensais à la lecture. Mais
tu gardes 25 minutes.
J'ai suivi les indications qui m'ont donné. Donc bonjour à tous et merci d'être ici. Merci aux comédiens qui ont joué ces textes. En fait, c'était très agréable de les entendre pour moi qui les connais bien, dit comme ça, de les entendre autrement. Et je voudrais remercier aussi Emmanuel Blanchard d'être discutant et de se pencher sur cette communication. Et enfin, je voudrais évidemment remercier les organisateurs et organisatrices de cette rencontre, donc Séverine Chauvel, Jean-Luc Primon et Marine Haddad, de m'avoir invitée à cette journée sur l'enfance, l'adolescence et la migration. J'en suis d'autant plus heureuse que je crois que certaines des questions qui se posent cruellement aujourd'hui à ce sujet trouvent des échos dans le passé. Et l'une des questions qui traversent le temps, c'est celle de la sélection des enfants migrants qui sont jugés dignes d'être accueillis, et donc des critères que l'on utilise pour déterminer quels enfants seront sauvés des dangers qu'ils encourent dans leur pays d'origine et quels enfants ne le seront peut-être pas. De fait, toute l'histoire de l'aide humanitaire nous montre que toutes les vies, y compris enfantines, ne se valent pas et qu'une forme de discrimination s'exerce nécessairement dans le choix des victimes qui méritent le plus d'être sauvées. Alors, la communication que je vais vous présenter aujourd'hui pose cette question à un épisode du passé, celui de l'évacuation d'une dizaine de milliers d'enfants espagnols accueillis en France pendant la guerre d'Espagne. Ce cas diffère des situations que l'on connaît aujourd'hui, vous l'avez compris, au sens où les enfants sur lesquels je travaille sont évacués de la zone républicaine de l'Espagne dans le cadre de convois collectifs qui sont organisés par le gouvernement de la République espagnole en collaboration avec des comités d'aide étrangers. Le déplacement et l'hébergement en France de ces enfants sont donc planifiés et entièrement financés. Les enfants, quant à eux, doivent souvent s'inscrire à l'avance pour pouvoir bénéficier de ces évacuations qui font partie des politiques sociales du gouvernement espagnol républicain pendant la guerre. Une fois en France, ces enfants sont hébergés dans des familles volontaires ou dans des colonies d'enfants et leurs besoins sont couverts grâce aux fonds récoltés dans le cadre de la solidarité internationale envers l'Espagne républicaine. Pour le dire vite, c'est un peu comme si aujourd'hui, l'on faisait venir exprès des milliers d'enfants afghans en France, qu'on les logeait dans des familles ou dans des maisons d'enfants créées exprès pour eux, où ils pourraient rester jusqu'à ce que la paix revienne dans leur pays. Malgré ces différences, à l'époque comme aujourd'hui, se pose donc la question de la sélection des enfants auxquels est destiné ce programme, car il est bien évident que tous les enfants espagnols ne seront pas envoyés en France pendant la guerre. De nombreux facteurs jouent dans la composition de cette population enfantine évacuée, notamment la région et la ville d'origine, mais aussi, bien sûr, les souhaits individuels des parents ou des tuteurs de ces enfants. Mais en amont, les conditions pour l'inscription au départ vers la France sont fixées par les autorités espagnoles qui organisent les convois. Dans cette communication, c'est donc surtout sur la politique de ces acteurs officiels que je me concentrerai en cherchant à répondre à une question simple. Quels sont les enfants visés par les responsables gouvernementaux espagnols et parviennent-ils vraiment à les atteindre? Les convois correspondent-ils vraiment au public qui sont identifiés à l'avance? Pour répondre à cette question, je mêlerai des analyses qualitatives et quantitatives en m'appuyant sur la base de données que j'ai réalisée pendant ma thèse sur les enfants espagnols évacués en France. Ma communication sera organisée en trois temps. Je m'intéresserai d'abord aux populations cibles de la politique d'évacuation et aux modalités d'inscription des enfants, en montrant que le programme d'évacuation évolue dans ses objectifs, de l'aide aux enfants assistés à un service social destiné aux familles loyales à la République espagnole. Dans un deuxième temps, je me concentrerai sur le critère de l'âge des enfants évacués, en montrant quels sont les critères d'âge qui sont fixés par les autorités espagnoles et quelles sont les stratégies de contournement qui sont déployées par les familles pour donc contourner ces critères d'âge. Et dans un troisième temps, je m'intéresserai au poids croissant de la recommandation politique dans un contexte de demande sociale accrue pour envoyer un enfant à l'étranger à partir de 1938. J'en viens donc à ma première partie. Initialement, entre l'automne 1936 et le printemps 1937, les évacuations d'enfants sont une politique assistentielle. Le document de travail du ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, dont vous avez entendu un long extrait tout à l'heure, énonce clairement dès le départ, et donc je le cite à nouveau, que la préférence sera donnée aux orphelins et à ceux qui sont accueillis dans les centres dépendants de l'assistance sociale. L'objectif est à cette date pour le ministère, comme vous l'avez entendu, d'évacuer un grand nombre d'enfants, puisqu'il est question d'au moins 30 000 enfants, chiffre qui ne sera pas du tout atteint, en ciblant particulièrement ceux qui sont socialement les plus démunis. Ce choix n'est pas anodin, car on aurait pu imaginer d'autres critères, par exemple les enfants des soldats morts au combat, ou les enfants qui vivent dans les zones les plus soumises au bombardement, par exemple. En fait, les enfants qui sont ciblés correspondent au public habituel des politiques de protection de l'enfance. Les enfants orphelins, abandonnés, confiés temporairement à l'assistance sociale par leurs parents ou placés en institution par la justice des mineurs. Ce choix s'explique certainement par le fait que, à cette date, c'est le ministère de l'assistance sociale qui est en charge de la politique d'évacuation et donc il destine cette politique à ses publics habituels. Cependant, pour organiser les convois, il ne suffit pas d'imaginer une population cible. Il faut la constituer concrètement. Logiquement, la première initiative du ministère, c'est de faire évacuer en France les pensionnaires des orphelinats qui sont directement sous son contrôle. Mais en fait, ce ministère de l'assistance sociale n'a été créé qu'au tout début du mois de novembre 1936. C'est un ministère qui est vraiment de facture très récente et qui, en fait, ne contrôle que très, très peu d'institutions. C'est pourquoi il accepte très rapidement la collaboration du Conseil national de tutelle des mineurs, qui est dépendant du ministère de la Justice, qui est une institution beaucoup plus ancienne, qui date de la fin du XIXe siècle, et qui, comme son nom l'indique, est responsable de l'immense population des enfants espagnols sous tutelle de l'État. Le Conseil national de tutelle des mineurs organise ainsi, sous la houlette du ministère de l'Assistance sociale, 5 convois d'enfants vers la France entre février et avril 1937, avec un total d'environ 180 enfants dont on connaît l'identité par les archives. Et de fait, la majorité de ces 180 enfants est, au moment de leur départ vers la France, institutionnalisée. Au moins 40% d'entre eux sont orphelins d'au moins l'un de leurs deux parents, parmi lesquels entre 10 et 20% ont perdu leurs deux parents. Ces enfants correspondent ainsi en bonne part au profil type recherché par le ministère de la Santé et de l'Assistance sociale. Mais celui-ci ne se limite pas en réalité aux enfants assistés et sous tutelle. Dès le départ, il offre la possibilité à des familles ordinaires d'inscrire leurs enfants pour un départ vers la France, selon deux modalités. D'une part, et vous l'avez entendu dans le premier document, il envoie des bulletins d'inscription aux partis politiques et aux syndicats pour qu'ils les distribuent parmi leurs membres. Et d'autre part, comme le démontre le deuxième texte que vous avez entendu jouer, les inscriptions individuelles sont également possibles, notamment à Madrid. Des annonces, comme le montre le parcours de Ricardo Torrijos, des annonces sont régulièrement publiées dans la presse, et c'est donc ainsi que cet adolescent, Ricardo, prend connaissance de la possibilité de partir en France. Ce récit autobiographique montre la simplicité des démarches à effectuer à cette date. Il lui suffit d'aller s'inscrire au bureau local du Front Populaire, puis d'attendre d'y être convoqué par voie de presse le jour du départ. Il s'y rend alors avec sa mère, qui signe sans doute un papier d'autorisation, et il part pour Valence le 21 janvier 1937 dans un convoi de 321 enfants. Le cas de Ricardo Torrijos, sur lequel je pourrais revenir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui, révèle aussi l'absence à cette date de toute discrimination politique ou sociale de la part des autorités républicaines, au moins en ce qui concerne les inscriptions individuelles. En effet, ce jeune adolescent, je cite son autobiographie, vient de la très haute bourgeoisie et ses parents n'ont aucune sympathie pour le régime républicain. Peu de temps après, Les autorités du Pays Basque et de Santander, sur la côte nord, commencent elles aussi à envoyer des enfants en France. Mais leur programme fonctionne différemment de celui du ministère de l'Assistance sociale. D'emblée, elles font des évacuations en service social à destination des familles ordinaires, et pas spécifiquement pour les enfants des institutions d'assistance. Par exemple, pour le premier convoi qui est organisé en mars 1937, les parents doivent simplement inscrire leurs enfants dans les bureaux de l'assistance sociale à Bilbao. Il est décidé pour les évacuations suivantes de sous-traiter les inscriptions individuelles aux partis et aux syndicats en leur assignant à chacun un quota d'enfants maximum. Par exemple, le Parti communiste du Pays Basque reçoit 500 places à distribuer parmi ses adhérents. Quant aux autorités provinciales de Santander, qui est en fait la région qui est juste à l'ouest du Pays Basque, pour ceux qui connaissent un peu moins bien la géographie espagnole, et donc sur la côte, entre la Galice et le Pays Basque, si vous voulez, donc ces autorités provinciales adoptent encore un autre système. Plutôt que de passer par les partis et les syndicats, elles rendent obligatoire la présentation par les parents d'un certificat de loyauté politique ou syndicale au moment de l'inscription de leurs enfants. Dans un cas comme dans l'autre, l'objectif est le même, c'est-à-dire s'assurer que seules des familles loyales au camp républicain puissent bénéficier du service d'évacuation d'enfants. Pour vous donner une idée des documents avec lesquels j'ai travaillé, voici par exemple les fiches d'évacuation des deux enfants Jimeno Oña de Santander, qui ont été inscrits par leur mère le 3 mai 1937. Donc là, vous voyez leur fiche à gauche. Vous voyez très bien, parce que l'écran est immense, c'est génial. Et à droite, vous voyez le certificat qui a été signé pour leur père le même jour par le syndicat des travailleurs municipaux de Santander, donc de la centrale URT, l'Union générale des travailleurs, qui est proche du Parti socialiste au Pays Basque. Donc ces enfants sont inscrits le 3 mai. Ils partent finalement en France le 1er août sur un bateau qui héberge 1600 enfants de Santander évacués en France sans leurs parents. Alors, outre l'origine sociale et la loyauté politique l'origine sociale des enfants et la loyauté politique de leurs parents, d'autres critères sont également utilisés à cette époque pour sélectionner les enfants. Et j'en viens ainsi à ma deuxième partie sur les limites d'âge qui sont imposées par les autorités espagnoles, ainsi que sur les stratégies qui sont déployées par les familles pour contourner ces limites d'âge. Et je fais une toute petite parenthèse, parce qu'il y a été fait référence dans l'introduction, j'aurais aimé aussi vous parler du sexe des enfants, mais ça aurait pris trop de temps, ça m'aurait emmené trop loin. Et si vous voulez que j'en dise un mot, on pourra peut-être en parler plus tard. Mais ce n'est pas un critère explicite. L'âge des enfants, en revanche, est donc un critère explicite pour l'admission dans un convoi d'évacuation. Mais ce critère varie, et varie même beaucoup, selon le temps et le lieu, et en fonction de raisons qui ne sont jamais explicitées d'ailleurs. Par exemple, selon les jours, dans les sources, le ministère de la Santé et de l'Assistance sociale cible d'abord les enfants âgés de 7 à 14 ans, puis de 6 à 14 ans, puis ceux qui n'ont pas plus de 12 ans, et le lendemain même, ceux qui ont moins de 13 ans. Ces règles sont de toute façon loin d'être respectées. Par exemple, sur les 180 enfants évacués par le Conseil national de tutelle des mineurs que nous connaissons, nous connaissons l'âge déclaré au moment de l'inscription par ces enfants pour 138 d'entre eux. Donc ça, c'est le résultat d'une petite compilation. Donc selon ces données, leurs âges vont de 14 à 17 ans, avec, comme vous le voyez, donc 3 enfants de moins de 6 ans, et 6 enfants de 15 ans et plus. Donc même si on prend la fourchette la plus large des âges autorisés, c'est-à-dire de 6 à 14 ans, on voit qu'il y a presque 10% des enfants qui sont en dehors des clous, 8%. Alors le département de l'assistance sociale du gouvernement basque semble, lui, beaucoup plus strict, puisque les inscriptions sont ouvertes aux enfants âgés de 5 à 12 ans seulement, et les exceptions, de fait, sont rarissimes. Ainsi, parmi les 400 premiers sélectionnés pour le transport du 20 mars 1937, il y a seulement un petit garçon en dehors des clous, âgé de 4 ans et 9 mois, donc il a 3 mois de moins que la première limite. Il voyage avec son grand frère qui est âgé de 10 ans. De même, dans l'expédition du 12 juin, qui emmène 3000 enfants vers la France, seuls 0,5% des enfants, donc une quinzaine, ne sont pas compris dans la tranche d'âge des 5-12 ans. Et tous, ils voyagent avec des frères et sœurs. Alors, je ne sais pas comment les parents de ces enfants réussissent à négocier ces exceptions. Mais en tout cas, il n'est pas rare que les parents n'arrivent pas à les négocier. Et on a dans les archives de nombreuses traces hein, de refus d'évacuation en raison des critères d'âge. Or, il n'est pas rare, dans ces cas-là, que les parents déclarent tout simplement un âge qui soit conforme aux limites imposées par les organismes d'évacuation pour contourner les limites. Cachées par définition, ces stratégies de falsification sont difficiles à identifier et plus encore, elles sont très difficiles, enfin, impossibles à évaluer quantitativement. Je ne peux pas savoir combien il y en a. Mais il arrive que les sources laissent transparaître ces stratégies. Par exemple, pour le convoi du 13 juin 1937 qui part de Bilbao, 5 demandes sur 298 portent les traces d'une rectification de la date de naissance initialement écrite, qui est tout simplement recouverte par une seconde date. Alors, malheureusement, je n'ai pas les photocopies de ces fiches qui ressemblent aux fiches que je vous ai montrées tout à l'heure. Il faut juste que vous imaginiez qu'il y a une première date écrite et ensuite on voit au stylo, même dans une autre couleur parfois, et parfois on voit des traces de défacement un peu, une autre date. Et comme par hasard, ces 5 cas concernent tous des enfants qui auraient soit moins de 5 ans, soit plus de 12 ans, si la date n'avait pas été modifiée. Pour vous donner des exemples, sur la demande d'évacuation des Eugenio Mendiola Irao Lagoiti, donc on est au Pays Basque, qui est donc rempli par son père, on voit nettement que l'année de naissance 1923, qui lui aurait donné 13 ans, a été recouverte par une nouvelle date en 1924, qui lui permet d'avoir 12 ans. De la même manière, sur la demande qui concerne Domingo Aranzabal Oyarzabal, la date 1932, qui lui aurait donné 4 ans, devient 1931, qui lui permet d'avoir 5 ans, etc., etc. Ces corrections étant visibles sur les propres documents d'évacuation qui sont déposés au service d'assistance sociale basque, donc ça c'est sur les demandes et pas sur les fiches administratives, elles contiennent d'emblée la deuxième date. Il est possible en fait que ces pratiques de falsification étaient connues, voire même opérées par les employés administratifs eux-mêmes pour permettre le départ de ces enfants, puisque j'ai trouvé ces documents dans les archives des services administratifs. Une lecture des sources qui est très attentive aux incohérences d'âge pour un même enfant, ce qui est permis quand on a une base de données, on a plusieurs informations sur un même enfant. Donc ces incohérences d'un document à l'autre permettent de faire deviner de nombreux autres cas probables de falsification. Par exemple, il est courant qu'un enfant âgé de 14 ans au moment de l'évacuation ait finalement 16 ans quelques mois plus tard quand il arrive en France. Et à l'inverse, qu'un enfant de 7 ans au moment du départ ait toujours 7 ans 2 ans plus tard. Bien sûr, ces variations peuvent être dues à des erreurs typographiques ou à beaucoup d'autres causes. Mais pour un groupe d'enfants, on peut conclure de façon presque certaine à une falsification collective lors du départ. En effet, les archives du département de l'assistance sociale basque ont conservé une liste de 26 enfants hébergés à la garderie de la Fondation Miranda à Barakaldo, à côté de Bilbao. 26 enfants dont les parents ont consenti à l'évacuation et qui sont effectivement évacués le 13 juin. D'après le document initial de la liste des enfants, 4 ont 13 ans, soit un an de plus que l'âge autorisé. Or, sur les fiches du département de l'assistance sociale, les fiches d'évacuation que j'ai pour ces enfants pour le transport du 13 juin, ces 4 enfants n'ont plus 13, mais 12 ans. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que selon la liste officielle d'embarcation pour ce convoi, la fourchette d'âge de 5 à 12 ans soit strictement respectée pour les 298 passagers. Et sans surprise, les enfants de 12 ans constituent de loin la cohorte la plus importante puisqu'ils forment près d'un quart des enfants évacués dans ce convoi. J'en viens à ma troisième et dernière partie. Après les évacuations de la côte nord, qui s'achèvent en août 1937 avec le convoi de Santander, les évacuations vers la France s'arrêtent pendant presque un an. En avril 1938, le ministère de l'Instruction publique décide de relancer ce programme. Les inscriptions pour la France fonctionnent alors de la même manière que celles qui existent pour les nombreuses colonies d'enfants installées dans la campagne catalane et qui sont gérées par le ministère. Les enfants et leurs parents doivent faire enregistrer leur demande au bureau du ministère, fournir un aval syndical ou politique, un acte de naissance et subir un examen médical. C'est le système d'enregistrement dont vous avez entendu parler dans le troisième document qui vous a été lu. Mais à cette date, la demande est extrêmement forte pour des départs d'enfants à l'étranger, tant les conditions de vie en Espagne républicaine sont devenues impossibles. Dès le 13 juin 1938, quelques semaines après l'ouverture des inscriptions, la liste d'attente compte déjà plus de 3000 noms. Dans ces conditions, les responsables du ministère sont contraints de faire des choix. Donc le troisième texte que vous avez entendu jouer tout à l'heure raconte la crise qui a été déclenchée parmi les fonctionnaires du ministère de l'Instruction publique et au sein d'ailleurs du syndicat dont ils dépendent tous, la CNT, qui est le syndicat anarchiste en Espagne. Donc ce document rapporte la crise qui est déclenchée au ministère et au syndicat par la tentative de la directrice de l'enseignement primaire de faire envoyer en France deux enfants qu'elle recommande personnellement, alors qu'ils ne sont pas passés par la procédure d'enregistrement habituelle. Dans ce cas précis, le responsable des évacuations obtient gain de cause contre la directrice, en arguant qu'il n'accepterait pas d'accorder un traitement de faveur, sinon aux enfants qui présenteraient, je le cite, « un cas de nécessité ». Cette affaire a provoqué donc d'importants remous, comme je le disais, qui expliquent sans doute pourquoi, au moment d'organiser le convoi suivant, les services du ministère établissent une liste qui explicite pour chaque enfant, je cite, les raisons qui contraignirent le ministère à autoriser leur départ. Dans le tableau que vous voyez, les différentes raisons qui sont invoquées sont croisées avec le fait d'avoir été recommandé ou non, qui est aussi compté comme une raison. Comme vous le voyez, le tout premier critère pour sélectionner les enfants à évacuer est l'existence d'une recommandation en leur faveur. 56 des 79 enfants sélectionnés bénéficient d'une recommandation. Et à chaque fois, dans le document, l'origine de la recommandation est précisée. Dans l'immense majorité des cas, cette recommandation émane d'une organisation politique ou syndicale anarchiste ou d'une personnalité anarchiste importante, parfois même un ministre. Ce n'est pas un hasard, car comme je vous l'ai dit, à cette époque, le ministère de l'Instruction publique, après avoir longtemps été contrôlé par le Parti communiste espagnol, a été attribué à la CNT, la centrale anarchiste. Dans 27 cas, comme vous voyez, seule la recommandation d'une personnalité ou d'une organisation a suffi à un enfant pour figurer sur la liste, c'est-à-dire qu'aucune autre raison n'est donnée pour son inscription. Mais pour 18 d'entre eux s'ajoutent des raisons d'ordre familial et matériel. Par exemple, donc parmi les 18 que vous voyez, donc qui sont recommandés et qui ont une situation familiale et matérielle difficile, 8 enfants sont réfugiés, 4 sont orphelins de père, 4 vivent dans la misère. Enfin, pour 11 enfants est targué le fameux cas de nécessité, souvent qualifié de urgent ou de véritable, sans qu'on puisse vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette catégorie. Il arrive néanmoins, comme vous le voyez, que les enfants soient sélectionnés sans avoir été recommandés, c'est le cas de 20 d'entre eux. Pour ces 20 cas, donc dans le document, le ministère insiste plus que sur une situation matérielle particulièrement dramatique, sur le prix payé par l'ensemble de la famille à la cause républicaine, comme si le sacrifice et les souffrances faisaient office de recommandation politique, en garantissant la loyauté de la famille. Par exemple, 2 des enfants non recommandés ont, je cite, un père fonctionnaire de l'État avec un salaire de 350 pesetas, dont un fils est disparu au front et un autre mobilisé. 2 autres ont pour père un invalide de guerre, et le père d'encore 2 autres enfants est, je cite, un camarade malade et mobilisé à l'armée. Sans qu'on puisse savoir si les modalités de sélection pour ceux qu'on voit en particulier valent pour tous ceux qui ont suivi, ces modalités montrent qu'à une date où les demandes excèdent plus de 10 fois les places dans les convois d'évacuation, la recommandation en premier lieu et les preuves de loyauté à la République en guerre en second lieu sont devenus les 2 critères les plus importants pour obtenir l'évacuation d'un enfant en France. Alors qu'au départ, les évacuations d'enfants étaient conçues comme un programme d'assistance pour les enfants des classes populaires qui constituent le public habituel des services de protection de l'enfance. 2 ans plus tard, sans tout à fait perdre ce caractère assistentiel, elles s'apparentent de plus en plus à une récompense pour les familles les plus loyales à la République ou les plus proches des responsables ministériels qui ont le pouvoir de constituer les listes d'évacuation. et je vous remercie.
Merci beaucoup à la fois pour la gestion parfaite du temps et un exposé d'une densité et d'une richesse très forte, puisqu'il est vraiment multimédia, entre les lectures d'archives, ton propos, le PowerPoint, qui a vraiment énormément d'informations. Je voudrais aussi remercier les organisatrices de m'avoir permis de mieux connaître les travaux de Célia Keren. Je n'ai aucune compétence ou légitimité pour les discuter véritablement, donc je vais me contenter de lancer la discussion, qui est d'une certaine façon relativement simple dans le sens où les échos entre ce que tu as décrit et le présent sont évidents, hein, si on allait sur la question de la détermination de l'âge et la façon dont les stratégies s'ajustent aux contraintes réglementaires et administratives. Et il y a des échos dans l'actualité la plus récente. On pourrait aller aussi sur une question que tu n'as pas abordée mais que tu discutes bien sûr dans ta thèse, qui est celle comment on définit un enfant et un adolescent, puisque du point de vue de la demande, parce que je vais qualifier un petit peu les choses de cette façon-là pour simplifier, en tout cas de la mobilisation pour faire venir des enfants. Ce sont des enfants qui sont demandés et non pas des adolescents, ce qui fait aussi écho avec le contemporain, même si les âges, bien sûr, ont varié. On n'a pas le même âge aujourd'hui, le même âge social aujourd'hui qu'il y a une soixantaine, bah, 80 ans aujourd'hui. Et le seul point que je vais tout petit peu développé pour lancer la discussion, c'est un point que tu n'abordes pas directement dans le court temps qui t'a été imparti, c'est d'une certaine façon comment cette histoire est une histoire qui s'est révolue, d'une certaine façon. Puisque ce que tu nous as présenté, c'est la conjonction d'un répertoire de mobilisation pour faire venir des enfants, d'un répertoire administratif pour faire partir des enfants, et en fait, je devrais dire dès, puisque c'est des mobilisations différentes en fonction des régions, en fonction que l'on soit catholique, syndicaliste, communiste, et de la même façon, du point de vue administratif, tu as très bien montré comment il y a des répertoires différents, et des stratégies familiales, en tout cas pour ceux qui ne sont pas orphelins de père et de mère, la majorité donc, et ça c'est quelque chose qui souvent est mal connu, il y avait l'idée que ces enfants étaient pour beaucoup des orphelins, ce qui n'est pas le cas, et c'est aussi très important d'avoir le travail quantitatif que tu as fait justement pour finement qualifier les enfants, même si c'est sur des corpus qui ne correspondent pas aux 10 000, bien sûr, mais qui sont quand même très, très ajustés. Et d'une certaine façon, tu conclus ta thèse en disant que dans l'après-Seconde Guerre mondiale, disparaît, d'une certaine façon, ce répertoire mobilisé, politique, humanitaire, on pourrait le qualifier de plein de façons, qui est de celui de faire venir des enfants, puisqu'il y a d'autres modes d'action en direction des enfants qui se mettent en place. On va soulager les familles et les enfants sur place, d'une certaine façon. Mais ce qui n'a pas empêché que des stratégies familiales de départ d'enfants continue jusqu'à nos jours. Et c'est l'histoire de ceux qui ont connu des catégories administratives diverses, la dernière étant celle de mineurs non accompagnés, sans doute, mais ce n'est pas là le débat. Or, il me semble qu'aujourd'hui, on est dans un moment où peut-être se reconfigure dans ce nouveau régime migratoire, hein, de nouvelles mobilisations pour faire venir des enfants. Je pense à l'exemple des enfants qui sont bloqués aujourd'hui sur les îles grecques. Tu as parlé des Afghans dans ton exposé. Et il y a aujourd'hui des milliers d'enfants, afghans notamment, mais pas que, mais comme tu as donné cet exemple, je vais le donner, qui sont bloqués sur les îles grecques. Et on voit se nouer dans une période où, grosso modo, du point de vue institutionnel, que ces personnes soient bloquées, c'est l'objectif institutionnel. Du point de vue des mobilisations, il y a des mobilisations, mais qui sont guère efficaces. On se voit se nouer un sourd répertoire de mobilisation, des mobilisations pour lesquelles il ne peut pas y avoir d'opposants, comme tu le dis dans ta thèse, au niveau des enfants. C'est-à-dire que l'État grec est prêt à organiser le départ d'un certain nombre d'enfants, et il y a des pays, notamment en Allemagne, où à la fois au niveau des États, des Länders, mais aussi des groupes mobilisés, se reconstitue ce répertoire et cette demande de faire venir des enfants. Chose qu'on ne voit absolument pas en France, ou très peu en France. Et donc là, on voit bien que ce répertoire, il n'a pas complètement disparu, il s'est reconfiguré avec le régime migratoire actuel de blocage aux frontières de centaines de milliers de personnes. Je laisse la parole à la salle, je pense qu'un micro va circuler.
excusez-moi, mais c'est un micro à perche pour les raisons Covid, donc vous ne pouvez pas le toucher. Donc voilà, on va vous le passer, ça va être formidable.
Est-ce qu'il est nécessaire ou pas ?
Merci beaucoup pour votre intervention, que j'ai trouvée tout à fait passionnante. Moi, je m'interrogeais sur la place les rhétoriques qui étaient développées par le gouvernement français, Front populaire à partir de 1936, sur la question des enfants. On sait que c'est cette prise en compte des républicains espagnols par le gouvernement socialiste de l'époque ont été ambivalentes pour les adultes. Et qu'en est-il des enfants ? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus ?
Alors, je vais répondre tout de suite. En fait, le gouvernement français ne s'occupe quasiment pas de ses enfants. C'est-à-dire que du côté espagnol, c'est le gouvernement espagnol et d'autres autorités officielles qui s'en occupent. Mais en France, ce sont des organisations privées qui accueillent ces enfants, la principale d'entre elles étant un comité qui est en fait géré par la CGT. Donc ils obtiennent, si vous voulez, la collaboration passive du gouvernement au sens où la venue des enfants, elle est autorisée, autrement ce serait impossible. Et d'ailleurs, en 38, hein, au moment où Sarraut arrive au ministère de l'Intérieur, ça devient un peu compliqué, un peu plus tendu qu'avant. Au niveau local, il y a des autorités préfectorales qui participent au financement, par exemple, de certaines colonies. Et ça, en fait, c'est vraiment laissé un peu au choix des préfets. Mais globalement, au moins jusqu'en 38, ces enfants, du point de vue du gouvernement, réussissent à disposer d'un traitement de faveur. Par exemple, parce que c'est des enfants, mais aussi parce qu'ils sont soutenus par des organisations populaires très fortes. Je vous donne un exemple. En octobre 37, un moment où on l'a complètement oublié, mais il y a 150 000 réfugiés espagnols en France en octobre 37, parce que c'est les évacuations du Pays Basque qui ont été vraiment massives. Et la France a voté un budget de plusieurs millions de francs pour accueillir ces gens. Et puis, en fait, à la fin du mois de septembre, le budget, il n'y a plus de budget. Et en fait, le gouvernement espagnol ne veut pas forcément que ces gens restent en France, qu'il veut qu'ils reviennent en Espagne, se battent, etc., participent à l'effort de guerre. Bref. Et donc, le rapatriement massif de ces gens est décidé pour le 1er octobre. Et là, il y a des colonies d'enfants espagnols qui commencent à être rapatriés. Et la Ligue des droits de l'homme monte d'emblée au créneau en disant « Non, mais ces enfants-là, ils ne sont pas concernés par le rapatriement. Ceux-là, on les a fait venir exprès, ils n'ont rien à voir. Ce n'est pas des réfugiés. » Voilà, ça, c'est ce que je pourrais vous dire. Et sur la question de la rhétorique, elle diverge selon les organisations, mais c'est vraiment une rhétorique ultra-humanitaire, en fait, qui est déployée, ultra-émotionnelle. Et quand on lit vraiment les appels publics du comité qui est monté par la CGT, en fait, limite, on ne saurait même pas que c'est des enfants qui viennent de la zone républicaine. Ça pourrait presque être des enfants franquistes. C'est pas tout à fait, j'exagère, mais à peine. C'est-à-dire que vraiment, c'est cadré, c'est décrit comme un problème qui n'a rien à voir avec le fascisme, l'antifascisme, la révolution du prolétariat, etc. Il s'agit d'aider des enfants qui sont des victimes innocentes.
Merci encore. Donc, vous dites que ces enfants habitent dans des familles quelquefois, ceux qui ne sont pas dans les colonies. Est-ce que dans les archives, vous avez trouvé des informations sur cette cohabitation chez des gens, finalement, chez des citoyens ?
Alors, en fait, très, très peu. Parce que j'ai pas du tout pu avoir d'accès ou de sources qui viennent de ces familles. Donc, ce que je vois, par exemple, c'est quand ils demandent un peu d'argent au syndicat local pour acheter des vêtements. Et il y a des enquêtes quand il y a des problèmes. Par exemple, il y a une accusation d'abus sexuel. Il y a quelques accusations d'enfants qui sont très... Alors, il y a des problèmes avec des enfants qui sont très difficiles, notamment les garçons de plus de 14 ans. Donc parfois, il y a des enquêtes de ce point de vue-là, mais j'en ai pas trouvé beaucoup, malheureusement.
Merci pour votre présentation. Donc ma question, en fait, elle portait sur... donc vous montrez dans votre présentation que ces jeunes, ils viennent de milieux sociaux différents, pour certains d'entre eux. Et du coup, je me demandais comment ces caractéristiques sociales et puis du coup les catégories administratives qui sont rattachées, elles vont peut-être impacter la prise en charge en France. Est-ce qu'ils vont avoir des prises en charge différenciées selon leurs milieux sociaux ? Et du coup, comment ça impacte aussi leur trajectoire ?
Alors, la réponse est non, et ça va créer des problèmes. C'est-à-dire que, quand même, les premiers enfants, tous ceux qui partent de Madrid, de Valence, etc., c'est quand même beaucoup des enfants vraiment des classes populaires et parfois des classes
plus que populaires, vraiment des enfants qui viennent de milieux hyper difficiles, pauvres, qui étaient institutionnalisés, comme je l'ai dit. Ça, c'est des enfants qui sont souvent assez difficiles. Et en fait, à partir du moment où il y a des évacuations qui partent du Pays Basque, où, comme je l'ai dit, c'est vraiment à l'inscription des familles, là, on se retrouve avec des enfants qui viennent de classe moyenne, voire même de classe supérieure, d'autant que le Pays Basque, c'est comme la région la plus riche d'Espagne. On s'imagine toujours que c'est la Catalogne, mais pas du tout. Et donc là, alors moi je ne l'ai pas vu dans mes travaux, en fait. Enfin, je l'ai vu dans quelques lettres d'enfants que j'ai trouvées qui sont des lettres de plainte sur leurs parents. Ça, c'est vrai que j'aurais pu y penser. C'est un corpus qui est particulier, qui n'a rien de neutre, parce que c'est un corpus qu'on trouve dans les archives du Vatican, parce que le Vatican est très, très opposé à tout ça. Et donc collecte des cas de plaintes d'enfants, et on trouve quelques plaintes d'enfants basques en France et en Belgique, qui, en gros, sont vraiment sur des problèmes sociaux d'adaptation à une autre classe, quoi. Et notamment, ceux qui vont, le pire, en fait, c'est ceux qui vont à la campagne et qui disent « Non, mais on me demande de garder les vaches alors que moi, j'ai des copains qui ont reçu une bicyclette pour Noël et moi, il faut que j'aille travailler à la ferme. T'imagines pas, maman, c'est vraiment l'horreur, quoi. » En gros, c'est ça. Donc, voilà. Mais je pourrais pas le quantifier, mais c'est quelque chose qui a existé, notamment pour les enfants basques. Mais ils ne sont pas du tout traités de la même manière, d'une manière différente pour le coup. Le comité est complètement aveugle à cette question.
Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Oui, je voulais juste savoir, en fait, est-ce que dans ces procédures de sélection, il y a des éléments qui pouvaient favoriser et empêcher le départ d'enfants de même fratrie ?
De même fratrie ?
Oui.
Voilà. Alors, le fait de garder ensemble les fratries est favorisé ? Donc moi, par exemple, quand il y a des dépassements d'âge, je pense que c'est beaucoup lié à des questions de fratrie. En fait, il est très très rare que des enfants partent sans frère et sœur. Ça arrive, mais c'est vraiment rare. L'immense majorité des enfants partent avec un frère ou une sœur, ou avec un cousin, ou avec un voisin. Ça, on le voit dans les fiches d'évacuation, mais on le voit aussi quand ils font référence. Quand même, on a des correspondances de parents, par exemple, qui disent « J'ai entendu dire parce que le fils de la voisine qui est parti en même temps que mon fils, que, etc. etc. » Et ensuite, une fois qu'ils sont en France, tous les efforts sont faits pour les maintenir ensemble, soit dans les mêmes familles, soit dans les mêmes colonies, quand ils sont placés en colonie collective, soit s'ils sont dans des familles, au moins dans les mêmes villages, dans la même région, pour qu'ils puissent se voir. Mais il y a des cas... Ce principe va entrer en conflit avec un autre principe qui émerge au milieu de l'année 1937 au sein du gouvernement espagnol, qui favorise le placement en colonie pour les enfants d'âge scolaire. Et du coup, là, on va se retrouver, par exemple, avec une petite fille de 12 ans qui va être mise en colonie parce qu'elle a 12 ans, et son frère de 15 ans qui est en famille à un endroit différent. Et ça, pour les organisations françaises, c'est un scandale. Donc, il va y avoir des conflits entre acteurs là-dessus.
Merci, je crois qu'on va arrêter là pour cette première intervention. Merci beaucoup, hein, Célia et Emmanuel, d'avoir accompagné. On fait une petite pause, donc vous pouvez retraverser le forum pour aller prendre un café, et puis on se retrouve dans 10 minutes. Merci beaucoup.